Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Solène Robin.
Bonjour, Canal Académie vous donne aujourd'hui rendez-vous dans un lieu prestigieux puisque nous nous trouvons au Palais de la Découverte pour la remise du prix Jean Rostand 2007. Le prix Jean Rostand est décerné chaque année par le MURS, le Mouvement de Responsabilité Scientifique. C'est un prix qui existe depuis 1978 à l'initiative de l'Association des écrivains scientifiques. Il a été repris sous l'égide du MURS depuis 1993. Alors c'est un véritable prix littéraire, mais quelque peu original puisqu'il récompense un ouvrage de vulgarisation scientifique. Pour en savoir davantage, j'invite nos auditeurs à écouter l'émission consacrée à la création de ce prix sur Canal Académie, que vous pouvez évidemment retrouver en libre téléchargement. Alors quelques minutes avant la cérémonie de remise des prix, le lauréat 2007 a accepté de nous consacrer quelques instants. Bertrand Jordan, bonjour.
Bonjour.
Alors félicitations naturellement, puisque les félicitations sont de mise. Ce prix récompense votre ouvrage publié cette année chez Odile Jacob, Thérapie génique, espoir ou illusion. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisque la thérapie génique vous accapare beaucoup. Vous avez déjà publié de nombreux ouvrages à ce sujet. Alors, l'originalité de vos ouvrages, c'est qu'au-delà d'une dimension strictement scientifique, il me semble que vous vous intéressez beaucoup au rapport entre thérapie génique et société, aux questions d'éthique. Pour plus de précision, vous avez vous-même réalisé un parcours quelque peu atypique puisque vous avez commencé par un doctorat en physique nucléaire en 1965 et vous vous êtes ensuite reconverti dans la biologie moléculaire. Aujourd'hui, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, également chevalier de l'ordre du mérite à titre scientifique, membre de l'Organisation européenne de la biologie moléculaire ainsi que de l'organisation internationale HUGO, c'est-à-dire Human Genome Organization. Votre parcours originaire dans le domaine nucléaire, vous en êtes bien loin aujourd'hui. Pourquoi ce revirement? Pourquoi vous êtes tourné vers la biologie moléculaire?
En fait, j'ai découvert ce qui était en train de se passer en biologie à l'époque où je rédigeais ma thèse de physique nucléaire, donc 64-65. C'était vraiment l'époque du début de ce qu'on a appelé la biologie moléculaire, c'est-à-dire la biologie qui s'intéresse réellement aux mécanismes, à l'ADN, aux gènes, mais qui est capable de les appréhender concrètement, qui a démarré avec la découverte de la structure de l'ADN en 53 par Watson et Crick, mais qui a vraiment commencé à être opérationnel dans les années 60. Et bon, à l'époque, je travaillais au CERN à Genève, l'accélérateur européen de particules. Et il y avait un excellent groupe de biologie moléculaire à l'Université de Genève avec qui je suis entré en contact. Et j'ai eu l'impression que, tant qu'à faire de la recherche, il allait se passer beaucoup plus de choses intéressantes en biologie qu'en physique dans les années futures. Et j'ai décidé de passer à la biologie et j'ai jamais regretté parce qu'effectivement, les 30 ou 40 dernières années ont été une époque absolument extraordinaire pour la biologie. Ça a été une époque intéressante pour la physique, mais il n'y a pas eu du tout une révolution comparable.
Alors, l'ouvrage qui est aujourd'hui récompensé, c'est à la fois une réflexion souvent sous-jacente sur l'éthique de la thérapie génique, mais vous offrez également un panorama assez complet de toute l'histoire de la thérapie génique. Vous revenez sur ses balbutiements, justement, dans les années 50, puis 60-70 notamment, jusqu'à la question de son avenir à long terme. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage-là précisément ?
Alors, en réalité, je suis pas spécialiste de thérapie génique. Ma spécialité, c'est plutôt la génétique, ce qu'on appelle la génomique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en biologie maintenant, compte tenu du fait, justement, qu'on a lu l'ADN humain, qu'on a lu l'ADN de beaucoup d'organismes et qu'on a des moyens techniques qui sont incomparables par rapport à ce qui existait il y a seulement 10 ans, encore plus 20 ou 30 ans. Et donc, en fait, j'essaye, c'est mon 9e livre, mais en fait, j'essaye de faire le point à chaque fois sur un thème qui est proche de mon domaine de compétences, comme la génétique. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les imposteurs de la génétique », donc ça dit bien que ça parle à la fois de génétique, mais aussi d'un certain nombre de bêtises qu'on dit à son propos.
Je me permets de vous interrompre un petit instant, parce que je tiens à évoquer deux autres titres de vos ouvrages qui ne manquent pas d'humour. Vous avez également écrit « Le chant d'amour des concombres de mer », et puis « Voyage autour du génome, le tour du monde en 80 labos ». Alors, il y a toujours un certain recul dans vos ouvrages.
Oui, il me semble que c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois d'être suffisamment compétent pour débrouiller un domaine et puis de prendre le recul, de voir comment il a été perçu, comment il a évolué, comment l'industrie éventuellement s'y est engouffrée ou ne s'y est pas engouffrée, comment les médias le voient, quelles conséquences ça peut avoir ou c'est en train d'avoir sur la société. Donc d'essayer de faire un petit peu le tour d'un sujet et en essayant aussi qu'il soit accessible à un public, bon, on dit grand public, disons, à un public qui est prêt à faire quelques efforts pour comprendre quelque chose qui ne se lit pas, évidemment, comme un roman policier.
Oui, et puis on peut également espérer que cela amènera les gens qui ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants de la génétique, puisqu'on en parle beaucoup au moment du Téléthon chaque année, mais la thérapie génique, les recherches en génétique, le génome, l'ADN, hormis quelques connaissances parcellaires, finalement la plupart des gens n'en connaissent pas beaucoup, ni sur l'histoire de la génétique, ni sur les enjeux. Il y a beaucoup de craintes, d'envies. Vous parlez d'une chose très intéressante dans votre ouvrage, vous évoquez cette peur qu'ont beaucoup de gens par rapport aux OGM et au milieu nucléaire. Vous dites que finalement, un champ de maïs génétiquement modifié, vous laissez entendre que ça n'a pas de conséquences dramatiques sur l'existence, alors que vous laissez entendre que les gens sont plus ouverts par rapport à la thérapie génique. Et là, on parle de mutations complètes de l'ADN et qui auront des conséquences totales sur l'hérédité. Vous semblez parler d'un paradoxe dans l'idée que se font les gens de mutations génétiques chez l'homme ou chez l'animal par rapport aux plantes.
Oui, enfin, ce sont des sujets qui suscitent beaucoup d'intérêt, qui suscitent beaucoup de fantasmes. Bon, et ça se comprend parce qu'ils touchent de très près à la vie, à ce qui est vraiment soit ce que nous sommes, soit ce que nous mangeons, qui concerne les gens très directement. Et effectivement, si c'est pour soigner, il y a un a priori favorable. Si ça n'est pas pour soigner, il y a beaucoup plus de méfiance. Bon, et puis il y a eu quand même un certain nombre de crises majeures, la vache folle, l'affaire du sang contaminé, qui ont nourri beaucoup de méfiance vis-à-vis des innovations qui sont introduites et dont on se demande si elles sont vraiment positives, si elles ont vraiment été testées autant qu'elles doivent l'être, et si on n'est pas en train de préparer des catastrophes.
Mais alors aujourd'hui, finalement, l'ADN médicament, est-ce que ça existe vraiment? Vous laissez entendre qu'aujourd'hui, on peut amener des gènes thérapeutiques, les introduire par ces fameux vecteurs qui permettent d'amener le gène thérapeutique jusqu'à la cellule, mais on ne peut pas modifier directement le gène qui comporte une anomalie.
Oui, on a eu beaucoup d'espoir dans la thérapie génique et je dirais que ça a correspondu à une certaine naïveté, mais bon, que les scientifiques ont partagé, que je pense j'ai moi-même partagé, disons, dans les années 80, au début des années 90, où on avait un peu l'impression que finalement, l'ADN, les gènes étaient la clé de toute chose et que quand on aurait lu les gènes, bon, on dit souvent déchiffrer, décrypter, je préfère dire lu parce que lire ne veut pas dire forcément tout comprendre.
Pour apporter quelques petites informations à nos auditeurs, vous parlez de 3 milliards de bases par chromosome pour 23 chromosomes en tout, c'est-à-dire finalement des milliards d'informations à décrypter.
En fait, c'est 3 milliards de bases en tout pour l'ADN qui est contenu dans chaque noyau de chacune de nos 100 000 milliards de cellules. Enfin, c'est presque inimaginable. Oui, c'est une somme d'informations énormes qu'on a réussi à lire. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend totalement la façon dont cette information est utilisée, quelles sont les conséquences physiologiques, qu'est-ce qui se passe si un petit élément de cette information est modifié, et ainsi de suite. Donc c'est une avancée majeure, mais c'est loin de tout résoudre.
Et vous parlez également de mutations qui peuvent être effectuées, de thérapies géniques qui n'auront de conséquences que sur la personne elle-même et d'autres qui modifieront totalement son patrimoine héréditaire, y compris pour les générations à venir. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux ?
Actuellement, lorsque l'on fait ou que l'on tente de faire de la thérapie génique chez l'homme, on s'interdit de faire justement des modifications héréditaires et donc qui seraient transmises à la descendance. Donc contrairement à ce qu'on fait effectivement avec le maïs transgénique ou le soja transgénique qui transmet effectivement le caractère aux graines qu'il produit. Dans la thérapie génique actuellement, on cherche à introduire un gène dans l'organe qui est le plus touché par la maladie, de façon à rétablir la fonction dans cet organe. Mais on fait très attention à ce que ce gène ne puisse pas être intégré dans les cellules sexuelles et ne puisse pas être transmis à la descendance. Cela dit, peut-être que dans l'avenir, on se posera de nouveau la question, dans certains cas, de faire une thérapie génique qui serait transmise à la descendance. Mais ça n'est pas le cas actuellement.
Exactement, c'est la question que je me posais parce que vous indiquez, vous parlez de la mucoviscidose, de la myopathie de Duchenne, ces maladies, on aurait tout intérêt à modifier totalement le patrimoine héréditaire. Alors est-ce que ce serait aller contre la nature, mais est-ce que ce serait éradiquer des affections qui nuisent à la vie de milliers de personnes, milliards de personnes ?
Alors, d'abord, ça ne serait pas nécessairement les éradiquer parce que pour beaucoup de maladies, enfin, pour certaines maladies, en tout cas, par exemple, la myopathie dont nous parlions, il y a une apparition fréquente de nouvelles mutations. Bon, ça tient au fait que c'est un gène absolument immense et donc le risque d'accident lors de la reproduction de l'ADN est relativement important. Et donc, finalement, même si, d'une façon ou d'une autre, on supprimait tous les gènes mutés existants pour cette affection, il en apparaîtrait quand même des nouveaux.
Il y a un point qui m'a beaucoup intéressé également, vous parlez de la Chine, puisque finalement, à l'heure actuelle, la Chine apparaît comme le seul pays au monde où un véritable médicament de thérapie génique est autorisé sur le marché. Alors, gendicine, je ne sais pas comment on prononce ce terme. Il y a deux éléments dans ma question. Le premier, c'est pourquoi la Chine, dont on n'imagine pas qu'elle pourrait être dans les pionnières, dans les découvertes scientifiques, et c'est le seul pays qui propose un médicament de thérapie génique. Et puis également, ce médicament de thérapie génique, vous l'écrivez, est fait pour soigner des cancers, chose qu'on n'imagine pas non plus de premier abord.
Oui, alors je commencerai par le cancer et c'est un point sur lequel je vais insister dans ma conférence. Effectivement, quand on pense thérapie génique, on pense maladie héréditaire, myopathie de Duchenne, mucoviscidose, etc. Et en réalité, les deux tiers ou les trois quarts des essais cliniques qui sont réalisés en thérapie génique sont faits sur le cancer. Et bon, ça tient à ce que, d'une part, dans le cas du cancer, on se trouve dans une situation généralement d'urgence. Et on peut admettre éventuellement de tester des traitements qui ne sont pas totalement éprouvés, plus que dans une maladie génétique relativement chronique, comme par exemple l'hémophilie, qu'on sait relativement bien traiter par des facteurs de coagulation. Et en plus, une des grandes difficultés de la thérapie génique, c'est d'arriver à ce que le gène qu'on a introduit fonctionne durablement. Sinon, il faut recommencer la thérapie génique. Mais dans le cas du cancer, ce qu'on cherche, c'est à détruire les cellules tumorales. Bon, si on arrive à les détruire, on est content. Donc, on n'a pas besoin que la thérapie dure très longtemps.
Mais ça veut dire que la thérapie génique pourra servir à soigner, à curer au sens étymologique du terme, les cancers.
Il est probable que ça sera, disons, son application majoritaire dans les années qui viennent, plus que les maladies héréditaires. Si vous voulez, le problème aussi avec les maladies héréditaires, c'est que globalement, elles représentent un nombre de malades relativement important, mais chaque maladie est relativement rare. Chaque maladie est un cas d'espèce. Donc, si vous voulez, par exemple, si on parle de façon tout à fait commerciale et industrielle, le chiffre d'affaires du cancer du sein est à peu près 1000 fois plus élevé que le chiffre d'affaires de la myopathie de Duchenne. Donc, un industriel, et c'est normal, va beaucoup plus investir dans des recherches de thérapie génique susceptible de traiter le cancer du sein que la myopathie de Duchenne.
Et donc ce fameux médicament autorisé sur le marché chinois, quel type de cancer peut-il avoir un impact et est-ce que c'est vraiment efficace ?
C'est un médicament qui est destiné à des cancers solides, donc à des cancers qui produisent des tumeurs et non pas des cancers du sang, ce qu'on appelle des cancers ORL, enfin de la tête et du cou. Donc ce sont des localisations qui sont pratiquement inopérables en général, donc on a besoin vraiment d'un traitement local si possible. Et il consiste à injecter directement dans la tumeur le gène avec son vecteur. Et en fait, c'est un gène, si vous voulez, qui rétablit, s'il fonctionne correctement, une fonction normale des cellules tumorales qui est de se suicider. Parce que les cellules tumorales, c'est des cellules qui ont échappé à un mécanisme de contrôle et qui normalement devraient se suicider. Et elles ne se suicident pas parce qu'il y a un gène muté. Et en réintroduisant le gène normal, on doit les induire à se suicider. Et bon, ce médicament a été autorisé en Chine. Disons, des médicaments comparables ont été développés aux États-Unis, mais ils n'ont pas été encore autorisés. On peut penser que probablement le processus d'autorisation en Chine a été un peu moins rigoureux ou tatillon qu'aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une avance majeure en Chine par rapport aux États-Unis, ça veut dire qu'ils ont un bon niveau.
D'accord, donc on peut espérer, imaginer que la Chine, dans les années et les décennies à venir, prendra sa place au niveau de la recherche médicale. Une question un petit peu plus polémique, et puis on s'arrêtera là ensuite. Vous parlez dans votre ouvrage, il s'intitule « Thérapie génique, espoir ou illusion ». Vous dites également à plusieurs reprises que vous laissez entendre, du moins je ne voudrais pas vous accuser à tort, qu'on floue peut-être un peu les gens par rapport aux réelles solutions qu'on pourra trouver grâce à la thérapie génique. Est-ce qu'il y a vraiment finalement un grand espoir, une illusion? Est-ce qu'il faut temporiser? Vous dites que souvent, par l'intervention importante des industries pharmaceutiques, etc., on a tendance à montrer les choses de manière un petit peu trop rose par rapport aux portées de cette thérapie génique. Qu'en est-il réellement?
Je pense que la thérapie génique jouera un rôle dans la thérapie, dans l'arsenal thérapeutique dans les années qui viennent. Je ne pense pas qu'elle va être la panacée qu'on a pu espérer. Je pense même pas probablement que ça sera un rôle extrêmement majeur. Et effectivement, aussi bien du côté des chercheurs académiques qui ont besoin de justifier les dépenses qu'ils font que du côté des entreprises, que ce soit les start-up ou les grandes boîtes pharmaceutiques, on a tendance à exagérer les espoirs. Et c'est donc important qu'on puisse comprendre ce qu'il y a réellement derrière et avoir un regard critique sur ce qui nous est annoncé.
Le mot de la fin, juste avant de vous laisser rejoindre la tribune. Aujourd'hui donc, trop d'argent dépensé pour la thérapie génique, trop d'importance accordée à la thérapie génique, ou il faut rétablir un équilibre, ou finalement les choses suivent leur cours normalement?
C'est une question à laquelle on pourrait répondre longuement. Je dirais que, en ce qui concerne la France et en particulier l'AFM, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, l'AFM ne dépense qu'à peu près le quart de ses ressources pour la thérapie génique. Ça n'est pas 100% thérapie génique comme on pourrait le penser, comme l'AFM elle-même peut-être le laisse parfois penser. Sinon, est-ce qu'il faut arrêter les recherches? Sûrement pas. Mais on a probablement, en particulier aux États-Unis, pour la thérapie génique, on est probablement passé trop tôt aux essais cliniques qui coûtent extrêmement cher avant d'avoir débrouillé les mécanismes fondamentaux.
C'est une très bonne réponse. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Jourdan, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps avant la remise officielle du prix. On va vous laisser entre les mains du président du MURS, donc Jean Jouzel, ainsi que du président du jury du prix Jean Rostand, qui est l'académicien des sciences Paul Carreau. Je rappelle que votre ouvrage « Thérapie génique, espoir ou illusion » est paru au début de cette année aux éditions Odile Jacob. Et j'invite nos auditeurs à se le procurer rapidement. Je vous invite également à nous retrouver juste après une courte pause musicale pour assister à la remise du prix Jean Rostand 2007 et à la conférence donnée par Bertrand Jourdan, le lauréat.
Canal Académie.
Retrouvons la remise du prix Jean Rostand 2007 en direct du Palais de la Découverte. Paul Carreau, président du jury.
Le prix Jean Rostand est attribué sous les auspices du MURS, qui est le mouvement universel de la responsabilité scientifique, et que ce prix a été autrefois défini et décerné par l'Association des écrivains scientifiques, c'est-à-dire un groupe de chercheurs intéressés par la vulgarisation scientifique écrite. Il récompense donc généralement un chercheur qui a pris la plume pour expliquer son travail au grand public. Aujourd'hui, la responsabilité scientifique et le talent de vulgarisateur se rejoignent dans le lauréat du prix 2007. Monsieur Bertrand Jourdan, biologiste moléculaire, directeur de recherche au CNRS, pour son livre « Thérapie génique, espoir ou illusion » que voici, publié par les éditions Odile Jacob. Bertrand Jourdan a été directeur du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini et coordinateur de Marseille-Nice-Génopole. Il est un véritable professionnel du gène, responsable de recherches conduites à un niveau élevé. Il a déjà publié plusieurs ouvrages grand public, dont vous trouverez la liste dans les dernières pages de ce livre, toujours avec le souci de démystifier les questions qui se prêtent au fantasme ou à la manipulation, comme par exemple le clonage. Les principes apportés par la découverte du génome et son séquençage sont désormais bien connus du public, même si les détails échappent. L'idée s'est introduite dans l'opinion que l'humain est fabriqué d'après un plan, composé de morceaux alignés les uns après les autres, symbolisés par des lettres, lues par l'organisme comme un mode d'emploi. Les morceaux étant des molécules identifiées et que l'on sait fabriquer, et à partir de cela, on croit que l'humain fonctionne un peu comme une automobile qui marche lorsque l'on a assemblé toutes ses pièces dans le bon ordre. Plutôt que le concept d'une boîte noire dont l'intérieur est inaccessible, cette vision mécaniste impose l'idée du garagiste capable d'échanger une pièce défectueuse. Donc, si un gène est mauvais ou absent, il suffit de le changer ou de l'introduire au bon endroit du plan. L'idée est simple, séduisante, mais extrêmement difficile à mettre en application, en particulier parce qu'il faut trouver un vecteur capable d'aller insérer au bon endroit la pièce manquante dans un tissu vivant. Bertrand Jordan nous conte les espoirs engendrés par cette approche pour des cas de maladies pour lesquels les attentes de thérapie médicamenteuse sont faibles ou qui impliquent d'atroces conditions de vie. Il s'agit non seulement de problèmes de recherche fondamentale, mais aussi de questions industrielles et surtout de problèmes d'éthique qui mettent en jeu tous les aspects de la relation science-société et donc la responsabilité scientifique et morale des chercheurs impliqués. Il donne plusieurs exemples des difficultés rencontrées et déroule l'historique des tentatives dont malheureusement beaucoup ont échoué. Il est clair cependant que les chercheurs ne se découragent pas et que la thérapie génique fait l'objet d'intenses recherches. Des essais sont entrepris, dont la presse se fait souvent l'écho, et on peut toujours espérer, au moins sur un point particulier, une percée décisive. C'est le volet espoir de l'ouvrage. L'écho de ces recherches et tentatives de thérapie auprès des malades est considérable, et ils ont construit de puissantes organisations pour soutenir la recherche. Celle-ci en est d'autant plus insérée dans la société. Le livre de Bertrand Jordan, qui fait le point sur la situation, en est d'autant plus intéressant pour le public, les malades, comme pour les pouvoirs publics. De cette recherche en prise directe avec la société, Bertrand Jordan donne un tableau saisissant. C'est une question qui concerne directement la société contemporaine et le rôle qu'a la recherche dans l'évolution du rapport avec la maladie, la souffrance et la discrimination sociale qu'elle engendre. Le jury du prix Jean Rostand est heureux d'avoir choisi Bertrand Jordan comme lauréat du prix 2007. Alors je vais maintenant remettre le prix à notre lauréat.
Bien sûr, je voudrais d'abord remercier le jury de m'avoir décerné ce prix Jean Rostand. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur. La communication scientifique, c'est pas toujours une occupation, une entreprise facile. On a quelquefois un peu l'impression de prêcher dans le désert. Et c'est bien qu'il y ait des associations, des organisations qui s'occupent de la stimuler, de l'encourager. Et encore une fois, bien sûr, je suis très heureux d'avoir été distingué par cette organisation. Alors, je vais essayer, là, en une demi-heure à peu près, de vous faire un petit panorama de la thérapie génique, de ses espoirs, des difficultés qu'elle rencontre, des voies de progrès qui néanmoins s'ouvrent. Je démarre sur cette image qui est une image assez forte, donc qui est une image de ces enfants bulles lorsqu'ils sont encore dans leur bulle et que la seule façon pour leurs parents de les toucher est à travers une double épaisseur de plastique. Et comme vous le savez, ce sont ces enfants chez lesquels la seule pour le moment vraie réussite
malgré quelques bémols de thérapie génique, a eu lieu. Donc, je commence un petit peu par un tout petit peu d'histoire, un rapide panorama de l'histoire de la biologie moléculaire que j'ai eu la chance effectivement de vivre depuis le milieu des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et c'est pratiquement toute l'histoire de la biologie moléculaire, la découverte de la structure de l'ADN avec Watson, bon, qui s'illustre actuellement par des propos extrêmement contestables et criques devant leurs molécules, avec ce modèle qui a vraiment été... Bon, il y a eu la découverte du fait que c'est l'ADN qui porte l'hérédité par Avery et MacLeod en 1944, puis la structure de l'ADN par Watson et Crick, et c'est vraiment ça qui a permis le début du développement de la biologie moléculaire. Dans les années 1960, je dirais qu'on a compris dans les grandes lignes la plupart des mécanismes qui sont symbolisés ici, d'une part, pour la fabrication de deux exemplaires de l'information génétique et aussi pour l'expression de l'information génétique, c'est-à-dire le passage du gène qui est une sorte de formule à une protéine qui va effectivement réaliser son travail dans la cellule ou à l'extérieur, avec le déchiffrage du code génétique, c'est-à-dire de la façon dont on passe au langage de l'ADN, qui est un langage à 4 lettres, au langage des protéines, qui est un langage à 20 lettres. Bon, je vais vite parce que c'est pas vraiment notre propos, mais pour quand même situer le fond. C'est à ce moment-là, en fait, que personnellement, je suis arrivé dans la recherche en biologie moléculaire, vers 1965. Et je dirais que les choses ont un tout petit peu piétiné jusqu'au moment où est apparu le génie génétique, c'est-à-dire la possibilité de découper précisément l'ADN en morceaux, de recoller entre eux des morceaux d'ADN d'origine différente, du coup de les propager dans des bactéries. C'est ça qui a réellement permis à l'ADN de sortir de sa bouteille et de ne plus être quelque chose d'abstrait qu'on n'était pas vraiment capable d'appréhender expérimentalement, ni de lire, ni de manipuler. Et qui a vraiment permis d'étudier les gènes, d'abord de bactéries, ensuite de différents organismes dont l'homme, et finalement au bout d'une 20aine d'années qui ont été extrêmement riches, fécondes, tumultueuses, d'arriver à lire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des 3000 lettres qui constituent le patrimoine génétique humain, les 3000 entités chimiques le long de l'ADN, les 3 milliards, pardon, d'entités chimiques le long de l'ADN qui sont présentes dans chaque noyau de chacune de nos 100 000 milliards de cellules. Donc ça, c'est vraiment à très très grands traits un panorama de la biologie de 50 années de biologie moléculaire. Et bien sûr, en parallèle, a commencé à se dérouler l'histoire de la thérapie génique, qui a commencé à être discuté. Les premières discussions qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique remontent aux années 1960, c'est-à-dire au moment où on commençait à savoir ce que c'était qu'un gène, de quoi il était fait, sans avoir beaucoup de possibilités réellement de l'étudier. La première tentative sauvage, c'est-à-dire non autorisée, a eu lieu en 1980. C'était une tentative de thérapie génique d'une maladie sanguine, de la thalassémie, qui avait été faite dans des conditions non acceptables, qui n'a pas eu de conséquences malheureuses pour les malades, mais enfin qui n'aurait pas dû avoir lieu. La première tentative réellement encadrée, c'est-à-dire qui a été bien discutée, approuvée par un certain nombre de comités, a eu lieu en 1990. Le premier accident grave, puisqu'il a abouti à la mort d'un patient, a eu lieu en 1999, lors d'un essai de thérapie génique qui n'avait pas été mené avec suffisamment de rigueur et dans lesquels les conséquences d'incidents survenus, en particulier lors des essais sur des singes, n'avaient pas été tirées. Et donc qui aboutit quand même à la mort d'un jeune homme de 18 ans qui, avant d'être volontaire pour cet essai de thérapie génique, était en relativement bonne santé. Et la première vraie réussite dont je vais parler donc date de 2000, donc c'est quand même assez récent. Après une petite 20aine d'années de travaux intensifs. Alors qu'est-ce que c'est que la thérapie génique? Vous avez ici une vision très, très simplifiée et optimiste qui émane d'une publication de l'AFM, qui a été, comme vous le savez, un élément moteur en France avec le Téléthon pour pousser les recherches sur la thérapie génique. Donc l'idée, c'est que l'on a des cellules qui fonctionnent mal parce qu'elles contiennent un gène qui est non fonctionnel ou absent ou défectueux, et grâce à un virus désactivé, qui est cette espèce de, je sais pas, de mouton ou de chien, qui court, qui galope allègrement, on apporte le gène médicament qui va rectifier les choses et permettre à ces cellules cibles de fonctionner normalement. Alors ça, bien sûr, c'est une vision très simplifiée, une vision un peu plus réaliste, un peu plus compliquée. Donc, on a une cellule du malade qui présente un défaut de fonctionnement parce que un gène contenu dans un chromosome de cette cellule n'est pas fonctionnel. Il contient, par exemple, une mutation, un changement d'une lettre dans l'ADN qui fait qu'il ne fonctionne pas. Eh bien, on va isoler ce gène, mais sous sa forme normale, d'une façon ou d'une autre. Ce gène qu'on a isolé sous forme d'un segment d'ADN, on va l'inclure dans une sorte de virus qui va assurer son transport dans la cellule, et une fois qu'il est entré dans la cellule, il va aller s'intégrer dans un chromosome du malade, il va fonctionner et il va rétablir la fonction dans la cellule et donc guérir le malade. Alors c'est une vision, malgré son apparence, qui est encore assez simpliste, qui comporte d'ailleurs une erreur, en ce sens que on a l'impression que le gène thérapeutique, il va au bon endroit dans le bon chromosome, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je voudrais tout de suite insister sur ces différents points. C'est que dans ce qui est fait, dans ce qui est tenté actuellement en thérapie génique, dans un grand nombre d'essais, comme on le verra, bien entendu, on intervient sur un organe et non pas sur le malade dans son intégralité. On ne cherche pas à avoir une correction définitive qui serait transmise à la descendance. On intervient uniquement sur l'organe critique dans lequel le fait qu'un gène fonctionne mal a des conséquences graves, par exemple les poumons pour la mucoviscidose. Mais en fait, on ne répare pas un gène et même on ne le remplace pas. Tout ce que l'on sait faire pour le moment, chez l'homme en tout cas, c'est ajouter un gène fonctionnel, un gène normal. On essaye de l'ajouter uniquement dans les cellules dans lesquelles il va avoir l'effet le plus positif. Et en réalité, ce gène, on n'est pas capable de diriger l'endroit dans l'ADN où il va s'intégrer. Il va s'intégrer dans un de nos 23 chromosomes. Il s'y intègre à peu près au hasard. Et ma foi, si tout se passe bien, ce gène va se mettre à fonctionner, diriger la synthèse de la protéine qui manque chez le malade et aboutir donc au rétablissement de la fonction et à la guérison. Donc, si vous voulez, encore une fois, ce que l'on cherche à faire, je reviendrai dessus à la fin pour indiquer quelques recherches récentes qui vont un peu plus loin, mais pour le moment, tout ce que l'on cherche à faire, c'est, dans l'organe critique, ajouter un gène fonctionnel en espérant que ce gène va fonctionner et va pouvoir guérir la maladie. Donc, dans la pratique, ça suppose pas mal de choses. Bon, ça suppose, bien sûr, de disposer du gène normal. Ça, c'est plus un problème puisque l'ensemble de l'ADN humain est disponible on peut le synthétiser ou on en dispose sous forme de morceaux d'ADN dans des collections dans presque tous les laboratoires du monde. Donc, le gène, on en dispose et on peut en produire autant qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment pas un problème. Par contre, on est souvent amené, comme je dis ici, à le bricoler parce que, par exemple, le gène est trop grand, ou parce que on veut qu'il s'exprime à un certain niveau. On est souvent amené à raccourcir le gène, à lui enlever des parties que l'on pense non essentielles, parce que sinon, on n'arrive pas à le faire rentrer dans les cellules. Ensuite, il y a un élément qui est absolument essentiel, c'est le rôle du vecteur, parce que il faut bien comprendre que les cellules n'aiment pas du tout intégrer de l'ADN. Pour une cellule de n'importe quel organisme, de l'ADN qui rentre, c'est un virus, c'est quelque chose contre quoi elles ont appris à se défendre au cours de millions d'années d'évolution. Et elles mettent, dès que l'on essaye d'introduire de l'ADN dans une cellule, bon d'abord, elles résistent à l'introduction, il y a toutes sortes de mécanismes au niveau de la membrane qui empêchent d'introduire de l'ADN, et si jamais on arrive quand même à faire rentrer de l'ADN dans la cellule, elle va mettre en jeu toute une série de mécanismes pour détruire cet ADN, pour le dégrader, pour l'inactiver. Donc, c'est vraiment difficile de faire rentrer de l'ADN dans la cellule. Et bien sûr, c'est ce qu'essayent de faire de leur côté les virus depuis eux aussi des millions d'années. Donc, il y a une espèce de course aux armements dans l'évolution entre les vecteurs qui perfectionnent des systèmes d'entrée et les cellules qui perfectionnent leur système de défense. Et donc, on a besoin, pour faire entrer le gène qui va guérir éventuellement la maladie, on a besoin de l'incorporer dans un vecteur qui est dérivé d'un virus, évidemment, qui ne doit pas présenter les caractères de dangerosité du virus, qui ne doit pas, par exemple, se mettre à se répliquer une fois qu'il est rentré dans la cellule, qui ne doit pas avoir d'effet pathogène. Donc il y a tout un travail au niveau des vecteurs. Et avec un peu une contradiction, c'est-à-dire que plus on modifie un virus pour le rendre inoffensif, moins il va être efficace, en général, pour introduire l'ADN dans la cellule. Donc la question des vecteurs est une question tout à fait centrale dans la thérapie génique, et c'est là-dessus que beaucoup d'efforts sont mis, et on a essayé beaucoup de vecteurs. Actuellement, les vecteurs qui sont les plus... dans lesquels on met le plus d'espoir, c'est ce qu'on appelle des vecteurs dérivés de virus adéno-associés, c'est-à-dire des virus qui ne sont pas le virus du rhume, mais qui sont souvent associés au virus du rhume, qui sont relativement inoffensifs et qui sont relativement faciles à manipuler. Alors, on peut procéder de différentes façons, sur le plan pratique, selon la maladie sur laquelle on veut intervenir. Si, par exemple, on veut essayer de guérir la myopathie par thérapie génique, eh bien, il va falloir injecter le vecteur avec le gène thérapeutique dans les muscles, ce qui pose problème dans la mesure où le nombre de muscles dans l'organisme humain est important et le nombre d'injections va être important. Par contre, si on veut intervenir sur une maladie qui se manifeste dans les cellules sanguines, on peut à ce moment-là isoler des cellules sanguines ou des cellules de moelle osseuse, les traiter au laboratoire, et une fois qu'elles ont intégré le gène qu'on voulait leur apporter, les réintroduire chez le malade. On va voir que ça a été le cas de figure de la thérapie génique du déficit immunitaire, de ce qu'on appelait les enfants bulles. Bon, et tout ça, bien sûr, dès le début et de plus en plus au fil des années, se sont mis en place tout un ensemble de mécanismes pour discuter les expériences, demander un certain nombre d'expériences préliminaires chez l'animal ou sur des cellules en culture, avant de donner l'autorisation de procéder à un essai dans des conditions de sécurité aussi bien définies que possible. Alors, parlons donc des enfants bulles sur lesquels a travaillé l'Institut d'Alain Fischer à l'hôpital Necker. Donc, il s'agit là d'un déficit immunitaire qui est d'origine génétique. C'est un déficit très très grave qui aboutit normalement, en l'absence de traitement, au décès des enfants avant leur première année. Et en fait, ce qui se passe chez ces enfants, c'est que ils ont un défaut dans un gène qui aboutit à ce qu'ils ne fabriquent pas une protéine qui est nécessaire à la constitution, à la surface des cellules des globules blancs, des lymphocytes T, d'un ensemble de récepteurs, c'est-à-dire d'un ensemble de structures qui sont impliquées dans la communication avec les autres cellules. Et donc, dans la mesure où ces récepteurs ne sont pas présents sur les lymphocytes T, eh bien, ces lymphocytes T ne peuvent pas se développer et ils ne peuvent pas non plus donner les signaux qu'ils doivent normalement donner aux lymphocytes B, l'autre espèce de globule blanc, pour que ceux-ci puissent se développer. Et donc, ces enfants n'ont aucun système immunitaire. Ils n'ont aucune défense contre les infections de différentes sortes. Et donc, encore une fois, ils ont un destin qui est extrêmement sombre. Alors, on peut, dans certains cas, les traiter par transplantation de moelle osseuse, à condition d'avoir un donneur compatible, ce qui est assez rarement le cas, et avec des résultats qui ne sont souvent pas merveilleux. Donc, c'est vraiment, c'est une maladie très rare, heureusement, mais c'est une maladie avec un très mauvais pronostic. Alors, ce que présente de particulier cette maladie du point de vue de la thérapie génique, c'est d'une part que on a très bien compris tout son mécanisme, et ça a été le travail pendant des années du laboratoire d'Alain Fischer de comprendre ce qui se passait dans cette maladie, et d'autre part qu'on peut prévoir que si on est capable de rajouter le bon gène dans quelques précurseurs des lymphocytes T, eh bien ces cellules, justement, parce qu'elles ont ces récepteurs à leur surface, vont pouvoir se multiplier. Et donc, si vous voulez, les cellules guéries, entre guillemets, ont un avantage sur les cellules non guéries et vont pouvoir se développer rapidement. Comme on le verra, c'est un cas relativement exceptionnel. Donc, vous avez ici un schéma de ce qui a été fait, qui émane aussi d'une documentation de l'AFM, avec, bon, une chose un peu curieuse, c'est qu'ils ont mis un adulte, alors qu'en fait, c'est une thérapie qui est pratiquée sur des enfants qui ont 1 ou 2 ans. Donc, en fait, c'est une thérapie, comme on l'a vu tout à l'heure, ex vivo, c'est-à-dire que l'on prélève des cellules de moelle osseuse du malade, on les cultive au laboratoire, on met ces cellules en présence du vecteur qui contient le gène normal. Comme c'est au laboratoire, on peut vraiment bien contrôler la façon dont on fait ces manipulations et contrôler que le gène pénètre bien et est bien intégré dans les cellules. On arrive à ce qu'une forte proportion de ces cellules l'intègrent, ce qui est rarement le cas en thérapie génique. Et une fois que ces cellules ont bien intégré le gène thérapeutique, on les réintroduit chez le malade. Comme ce sont des cellules qui proviennent à l'origine du malade, elles seront acceptées, il n'y a pas de problème de réaction, de rejet. Et ce que l'on espère, c'est que les cellules donc, qui sont des précurseurs de lymphocytes T, dans lesquelles le gène fonctionne et donc dans lesquelles les structures de surface sont présentes, vont pouvoir se multiplier et vont pouvoir repeupler le système immunitaire, donner les signaux aux autres globules blancs, les lymphocytes B, et permettre finalement une reconstitution du système immunitaire. Et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les quelques premiers malades qui ont été traités, ces enfants ont eu assez rapidement, en quelques mois, une reconstitution de leur système immunitaire qui leur a permis de sortir de leur bulle, de la bulle dans laquelle ils étaient confinés pour éviter qu'ils soient exposés à des microbes ou à des virus qui auraient été fatales puisqu'ils n'avaient aucune défense immunitaire. Grâce à cette thérapie génique, ils ont retrouvé un système immunitaire normal. Et bon, ces enfants vont maintenant, aujourd'hui, ils vont à l'école, ils grandissent normalement. Donc c'est une réussite et ça a été en fait, bon je vous ai épargné toutes les tentatives infructueuses qui avaient eu lieu entre temps, mais ça a été le premier succès franc d'une thérapie génique. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes, donc vous avez ici un communiqué de presse de l'AFSAPS, donc l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, donc qui surveille, qui est un des organismes qui surveille ce genre d'expérience. Et donc, il y a eu une complication qui a été observée chez un enfant, qui est une sorte de lymphome, donc une sorte de multiplication anarchique, cette fois-ci, des cellules du sang, et l'essai a été arrêté. Il y a eu ensuite un deuxième cas de lymphome, donc chez un deuxième enfant. Alors, ce sont des lymphomes qui sont traitables par chimiothérapie et dont qu'on sait en général relativement bien traiter, mais c'est quand même une complication grave. Le protocole a été modifié en fonction de ce qu'on avait observé sur ces deux malades. L'essai a été repris et puis il y a une troisième complication qui est apparue, un troisième lymphome, et l'essai a été arrêté et sauf nouvelle de dernière minute, il n'a pas été repris. Et en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que dans cette thérapie génique, où donc l'on introduit le gène thérapeutique dans les lymphocytes du malade, eh bien, il y a, dans une proportion non négligeable de cas, intégration de ce gène, là où il ne faudrait pas qu'il s'intègre, c'est-à-dire au voisinage de ce qu'on appelle un proto-oncogène, et le fait que ce gène se mette à cet endroit-là produit une multiplication incontrôlée des lymphocytes et donc un lymphome. Malheureusement, un des trois enfants chez lesquels cette complication est apparue en est mort, les deux autres ont été guéris. Donc c'est un succès limité, il n'empêche que Il y a aussi des enfants qui ont été traités comme ça en Angleterre. Il y a une vingtaine d'enfants qui sont aujourd'hui en bonne santé, avec un système immunitaire normal, qui vont à l'école, qui mènent une vie normale, alors qu'ils étaient condamnés. Donc c'est quand même un succès. Et ça illustre que même quand les choses se passent bien, il peut y avoir des complications inattendues, parce qu'on ne s'attendait pas. Comme justement, on avait toutes les raisons de penser que le gène s'intègre au hasard, on ne pensait pas qu'il pourrait en fait y avoir un certain ciblage sur un certain gène, et justement un gène dont les conséquences sont négatives. Donc voilà pour ce cas. Je reviens donc. Je les ai déjà un peu évoqués tout à l'heure. Donc les difficultés. Observé en général, on a du mal à introduire les gènes. Pour les vecteurs, on navigue entre des gènes, des vecteurs qui sont très inoffensifs mais peu efficaces, et des vecteurs qui sont efficaces mais qui sont pas totalement inoffensifs. On a souvent du mal pour arriver à intervenir sur les cellules critiques. Bon, quand c'est une maladie sanguine, c'est relativement facile, mais si c'est le foie ou si c'est le cerveau, c'est beaucoup plus difficile. Il y a le problème donc de l'insertion du gène qui se fait au hasard et donc qui n'est pas forcément régulé comme il le devrait. Normalement, un gène dans l'organisme, il y a des signaux qui lui disent allume-toi, éteins-toi, marche fort, marche faiblement. Et ces signaux sont très dépendants de l'environnement du gène, c'est-à-dire des régions de chromosomes qui sont proches de lui. Évidemment, si un gène qu'on introduit va se mettre n'importe où, rien ne dit qu'il va être régulé comme il faut. Et ce qu'on observe en fait souvent dans un certain nombre d'essais de thérapie génique, c'est que le gène qu'on introduit commence par fonctionner et puis progressivement son fonctionnement diminue. Ça a à voir probablement avec la mécanique des chromosomes. Et si vous voulez, une des leçons, c'est que on a un peu naïvement, mais on était un peu tous naïfs à l'époque, dans les années 80-90, on a un peu imaginé que bon, on allait introduire le gène fonctionnel et puis que la cellule se débrouillerait pour l'exprimer et pour rétablir la situation. Et en fait, on peut pas faire l'économie de la physiologie. On a vraiment besoin de comprendre quand le gène s'exprime, où il s'exprime, pourquoi il s'exprime, comment transite la protéine, et ainsi de suite. Alors, je change un petit peu de sujet maintenant pour dire, mais c'est lié bien sûr avec ce que je vous ai dit avant, qu'en réalité, contrairement à ce qu'on imagine souvent, la thérapie génique, ça n'est pas consacré principalement aux maladies génétiques. En fait, la plupart des essais de thérapie génique qui ont été faits portent sur le cancer. Vous voyez, ce camembert, c'est à jour puisque ça date de 2007. Vous voyez que presque les trois quarts des essais de thérapie génique portent en fait sur le cancer. Et en fait, les maladies génétiques, vous voyez, c'est uniquement le petit triangle rouge. Donc c'est bon, 8%, c'est pas grand-chose. Bon, il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses, c'est principalement le sida et un certain nombre d'autres maladies. Donc la plupart des essais cliniques, qui sont le premier stade où on teste un traitement pour voir s'il n'y a pas d'effet négatif et pour éventuellement voir un début d'efficacité, la grande majorité sont réalisés sur le cancer. Et bon, ça traduit différentes choses. Ça traduit d'abord le fait qu'il y a beaucoup plus de malades de cancer et en particulier, et de chaque cancer particulier, que de malades pour chaque maladie génétique. Les maladies génétiques représentent au total un nombre de malades relativement important, mais c'est dispersé entre des centaines et des centaines de maladies différentes. Par exemple, pour le déficit immunitaire sur lequel a travaillé l'équipe de Necker, on estime qu'il y a une cinquantaine de malades dans le monde entier. Donc c'est vraiment très très minoritaire. Donc d'une part, il y a beaucoup de cancers. D'autre part, ce sont quand même souvent des maladies qui ont une évolution rapide et grave, et donc où on peut éventuellement envisager des traitements dont la sécurité n'est pas à 100%. Et par rapport aussi à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'extinction progressive, l'arrêt progressif de fonctionnement du gène, C'est très gênant si l'on cherche à guérir l'hémophilie, par exemple. On voudrait que le gène qu'on introduit produise indéfiniment le facteur de coagulation qui va guérir le malade. Mais si l'on cherche par thérapie génique à traiter un cancer, si on arrive à éliminer la tumeur ou les cellules tumorales, on a gagné, on n'a pas besoin que le traitement persiste. Donc, un ciblage, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, majoritairement sur le cancer. Vous avez ici la statistique du nombre total d'essais qui ont été autorisés chaque année. Vous voyez qu'on tourne autour d'une petite centaine par année. Bon, il y a eu un pic à la fin des années 90, mais finalement, ça se maintient au voisinage de 100. Bien sûr, pour 2007, les chiffres ne sont pas complets. C'est pour ça que le chiffre est plus bas. Donc, une centaine d'essais cliniques. Chaque essai clinique, c'est quelques dizaines de malades dans le monde entier. Et ce qui est important aussi, et ce qui montre effectivement que la thérapie génique en tant que thérapeutique n'est pas mature, n'est pas à maturité, c'est que la très grande majorité de ces essais sont ce qu'on appelle des essais de phase 1. En fait, lorsqu'on fait un essai clinique pour un nouveau médicament, on passe normalement par 3 phase d'essai, la phase 1, la phase 2, la phase 3. La phase 1, c'est la plus préliminaire. C'est en principe destiné uniquement à traiter, à vérifier quelques paramètres et à vérifier l'innocuité du traitement, à vérifier qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves, inattendus. Ensuite, on passe à la phase 2 où on cherche à voir s'il y a réellement un effet thérapeutique. Et ensuite seulement, on passe à la phase 3 où on compare l'efficacité du nouveau médicament avec le meilleur traitement existant pour voir si réellement le nouveau médicament apporte un plus ou non par rapport au traitement classique. Et comme vous voyez, pour la thérapie génique, de nouveau, la très grande majorité des essais concernent la phase 1, la plus préliminaire, ou une espèce de phase intermédiaire entre 1 et 2. Ça traduit bien le fait que on n'en est pas à la mise en œuvre réelle de la thérapie génique dans la routine. On en est encore aux essais préliminaires. Alors, le seul traitement, en fait, qui aboutit actuellement à un produit qui a une autorisation de mise sur le marché et qui a une existence, si vous voulez, commerciale et clinique, c'est un traitement pour les cancers de la sphère ORL, c'est-à-dire le cou, les oreilles, la gorge, qui a été en fait développé et autorisé en Chine il y a maintenant 2 ans. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est un traitement pour ces cancers qui consiste à injecter directement dans la tumeur. Ce sont des tumeurs qui sont en général difficilement opérables, donc on a besoin effectivement de façon critique d'un traitement autre que chirurgical. Ça concerne à injecter directement dans la tumeur un produit qui est un gène P53 transporté par un vecteur. Ce gène P53, c'est un gène qui intervient dans le mécanisme de suicide de la cellule. C'est-à-dire, c'est un gène qui, normalement, lorsqu'une cellule se met à se diviser comme une folle, lui dit « suicide-toi » et aboutit à la destruction de la cellule. Et dans la plupart des cancers, ce gène, justement, est muté. Et donc, il ne dit plus à la cellule « suicide-toi ». Et au lieu, la cellule qui a échappé à la régulation, au lieu de se suicider, elle se divise, et ça vous donne un cancer. Et donc, en introduisant le gène normal, cette fois-ci, P53, non muté, dans ces cancers, on peut espérer rétablir ce suicide des cellules tumorales. Et c'est effectivement ce qui a lieu avec cette gendicine, avec un certain succès dans ces cancers ORL. Alors, pourquoi en Chine il y a des traitements analogues qui ont été développés et qui sont en cours d'essai de phase 2 ou je crois même de phase 3 aux États-Unis? On peut penser que si c'est la Chine qui est arrivée la première, c'est peut-être parce que les exigences des autorités en termes de preuves d'effets cliniques, de nombre de volontaires, etc., n'ont pas été tout à fait aussi élevées qu'aux États-Unis. Ça montre quand même que sur ce genre de recherche et de produits, ils sont à un niveau tout à fait correct. Ça montre pas qu'ils ont une avance extraordinaire. Bien sûr, il y a un certain nombre de malades occidentaux qui viennent se faire soigner en Chine par ce traitement. Alors, ça m'amène justement à la, un peu aux aspects industriels qui sont importants aussi, parce que l'histoire de la thérapie génique, ça a été aussi l'histoire d'un grand investissement de la part des industriels et de d'illusions. Alors, on peut vraiment parler d'illusions du point de vue du monde économique, puisque vous voyez ici un graphique qui était paru dans le mensuel L'Usine Nouvelle en 1994, et c'est une projection du marché mondial de la thérapie génique, et donc qui prévoyait pour cette année-ci, par exemple 2007, un chiffre d'affaires mondial de la thérapie génique de 29 milliards de dollars, pas millions, hein, 29 milliards de dollars. Pour fixer un peu les idées, un médicament qui marche bien comme le Viagra, c'est quelques milliards de dollars de marché mondial. Donc un marché de 29 milliards de dollars, c'est vraiment un beau marché. La réalité, c'est que aujourd'hui, en 2007, le marché de la thérapie génique, c'est probablement quelques millions de dollars, c'est-à-dire les chiffres de vente de la génédicine en Chine. Donc là, il y a eu des attentes qui n'ont pas du tout été remplies. En France, par exemple, un article de La Recherche que j'ai retrouvé en 1985, donc titrait traitement des maladies génétiques, le compte à rebours. Il s'agissait de thérapie génique. Quand on dit le compte à rebours, ça veut dire 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Et du côté des financiers, on arrive à retrouver des documents de banques à l'usage des investisseurs qui sont extrêmement positifs sur l'arrivée imminente de la thérapie génique. Vous voyez, pour certaines applications, la thérapie génique est quasiment prête. Donc il y a eu un peu un emballement et un aveuglement collectif, bon, qui correspondait un peu à l'esprit de l'époque où on avait tendance à penser que l'ADN c'était tout, et que quand on connaîtrait l'ADN on connaîtrait tout, et que avec l'ADN on allait tout pouvoir soigner. Malheureusement la réalité est beaucoup plus compliquée, et ça a effectivement entre autres eu comme conséquence que un grand nombre d'entreprises se sont créées aux États-Unis, se sont lancées sur la thérapie génique et ont procédé à des essais cliniques qui étaient prématurés, avec dans un ou deux cas des conséquences graves, puisqu'il y a eu au moins un décès lié à un de ces essais, et avec aussi comme conséquence qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour des essais cliniques alors qu'il aurait beaucoup mieux valu le dépenser à comprendre les mécanismes fondamentaux qui font qu'un gène fonctionne, ne fonctionne pas quand on l'introduit, ou à mettre au point les vecteurs. Alors, il n'y a pas eu ce genre de travers en France dans ce qui a été financé par l'AFM, mais ce genre de travers a été très net aux États-Unis. Donc c'était ce que j'ai en train de vous dire, donc l'illusion de l'ADN tout-puissant, l'emballement des entreprises. Alors en France, donc le cas de l'AFM, c'est un petit peu particulier, et je voudrais y passer un petit moment parce que ça me paraît important. J'ai beaucoup de respect pour l'AFM, qui est une association de malades dans laquelle les malades ont gardé le pouvoir, contrairement à d'autres structures où ce sont plutôt des mandarins ou des administratifs qui l'ont, mais qui a, à mon avis, un peu dérapé sur le plan médiatique en mettant presque exclusivement en avant la thérapie génique et en donnant l'impression que l'activité de l'AFM était totalement centrée sur la thérapie génique. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que sur les 100 millions d'euros à peu près que rapporte le Téléthon chaque année, eh bien la moitié va à l'aide aux malades, c'est-à-dire acheter des fauteuils électriques ou aménager des véhicules ou des maisons pour que les malades atteints de myopathie en particulier puissent mener une vie aussi normale que possible. Donc ça représente la moitié du produit du Téléthon. L'autre moitié, en dehors des frais de fonctionnement qui sont limités, va à la recherche. Mais dans ce qui va à la recherche, à peu près la moitié va à la thérapie génique et l'autre moitié va à d'autres recherches, par exemple, des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements fondés sur la connaissance du gène, mais qui ne sont pas de la thérapie génique. Donc, il y a, si vous voulez, une déviation par rapport à la réalité. L'AFM a eu, en fait, une politique scientifique assez raisonnable, mais a donné l'impression qu'elle avait une politique qui pourrait paraître assez déraisonnable. Alors, je crois que j'arrive, oui, à ma dernière image. Bon, Il continue quand même à se passer des choses dans le domaine de la thérapie génique, et il y a des choses positives qui se passent, à la fois sur le plan fondamental, en amont, comme je dis ici, et puis sur le plan de certaines maladies où il y a des progrès qui sont enregistrés. Alors, sur le plan fondamental, on voit poindre effectivement la possibilité de réellement réparer les gènes, non pas rajouter un peu n'importe comment un gène fonctionnel qui va se mettre n'importe où et qui, avec un peu de chance, mais avec beaucoup de chance, va fonctionner, mais réellement aller corriger le défaut qu'il y a dans l'ADN, aller rectifier la suite des lettres de l'ADN à l'endroit où elle n'est pas la bonne. Il y a maintenant des systèmes relativement compliqués, mais qui sont capables de le faire au laboratoire sur des cellules en culture, dans une certaine mesure dans des systèmes animaux. On n'en est pas du tout encore à tenter ça sur l'homme, mais c'est une perspective qui se dessine. Et puis on a beaucoup mieux compris toutes les questions de régulation, et donc on a des moyens maintenant par thérapie génique de modifier la régulation d'un gène ou de modifier, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, la façon dont il est lu. Donc il y a des interventions, si vous voulez, beaucoup plus fines que l'intervention finalement assez brutale qu'on savait faire jusqu'à maintenant, qui se profile à l'horizon. Mais bon, c'est certainement pas pour demain ou pour après-demain. Et puis il y a des succès dont on entend parler de temps en temps, dont certains correspondent vraiment à une réalité. Celui-ci a été assez médiatisé en France parce qu'il a été obtenu par une équipe nantaise. Il s'agit en fait de traiter par thérapie génique un type de cécité chez l'enfant qui est lié à une dégénérescence de la rétine. Bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec un ensemble d'outils extrêmement fins, on est effectivement arrivé à guérir cette maladie, à obtenir que la dégénérescence ne se produise pas de façon spécifique et de façon inoffensive. Mais ce sont des travaux pour le moment pour le chien, et on a eu dans le passé pas mal de travaux en thérapie génique qui fonctionnaient correctement chez l'animal, mais dont la transposition à l'homme est difficile et prend du temps. Mais enfin, c'est d'ailleurs un très joli travail sur le plan scientifique. C'est quand même un espoir. Et il y a récemment, par exemple, un essai qui lui a été pratiqué sur l'homme et qui a donné des résultats assez positifs, qui est un traitement par thérapie génique de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire en injectant en fait dans une région précise du cerveau un gène qui va produire le produit qui manque dans le cas de la maladie de Parkinson, et qui a effectivement amélioré durant presque un an les symptômes des patients. Donc il y a des choses qui avancent, il y a aussi des types de thérapie génique pour le cancer, mais on peut penser que la thérapie génique va faire partie de l'arsenal thérapeutique dans les années qui viennent. Je ne pense pas qu'elle ne représentera sûrement pas la panacée qu'on a pu espérer à un moment donné, mais elle jouera son rôle, comme probablement la thérapie cellulaire dont on parle beaucoup actuellement et qui est aussi un espoir, mais sur laquelle il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs que pour la thérapie génique en imaginant qu'on va traiter tout et n'importe quoi par thérapie cellulaire. Là aussi, c'est un maniement difficile. Il y a beaucoup d'avancées fondamentales à réaliser et ça ne se fera pas tout seul. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la remise du prix Jean Rostand 2007 et l'exposé du lauréat Bertrand Jordan pour son ouvrage Thérapie génique, espoir ou illusion. Je rappelle que vous pouvez retrouver en libre téléchargement sur notre médiathèque l'émission déjà consacrée au prix Jean Rostand et à son origine, ainsi que plusieurs émissions consacrées à des ouvrages déjà récompensés.